au tableau. Je ne peux pas, madame. Oh, excusez-moi, mon petit. Dans cette salle de seconde du lycée de Rouen, une trentaine d'élèves se retournent vers moi. Elles savent qu'avec l'étoile jaune, je n'ai plus le droit de monter sur l'estrade. Heureusement, la cloche retentit. Tout le monde se lève, mais personne ne parle. Je rentre à la maison par le chemin habituel. J'allais couper par le jardin Solferino. Avec une étoile jaune, on ne rentre pas dans un square. Ce jour-là, beaucoup d'élèves ont fait le tour avec moi. Devant la porte, un petit au revoir rapide. Papa travaille, il est chirurgien-dentiste. Maman, depuis peu, lui sert d'assistante. Demain, il y a interro écrite de géographie. Je révise jusqu'au dîner. Vers 21 h, la sonnette retentit. Maman descend et j'entends. Tous les trois? Oui, tous les trois. J'ai vite compris. Deux policiers français viennent nous arrêter. Nous entassons le plus de choses possibles dans les valises. Il faut partir, les scellés sont collés sur la porte. On nous emmène au commissariat central. Nous y retrouvons des amis et des inconnus, tous les Israélites de Rouen, des femmes, des enfants, des vieillards et même des infirmes. Les hommes de 18 à 55 ans avaient déjà été arrêtés en mai 42. Nous passons une partie de la nuit debout. Les Allemands arrivent vers 4 h du matin. On nous sert du café dans des assiettes creuses. Puis nous partons vers la gare, direction Paris, où des autobus nous attendent pour nous conduire à Drancy. Un camp en pleine ville, une caserne en construction, sans cloison ni plancher, un grand lavoir au milieu de la pièce, un escalier pour les femmes, un autre pour les hommes. Puis des colis arrivent. Quelle joie quand j'entends mon nom. C'était toujours un grand événement. Au bout d'un mois, le mot déportation est sur toutes les lèvres. Des fils de fer barbelés sont placés autour de deux bâtiments. C'est là que seront parqués pendant 2 ou 3 jours ceux qui ont lu leur nom sur les listes de départ. 3 000 personnes par semaine. Et chaque jour, le camp se remplit à nouveau. Samedi 6 février, c'est mon anniversaire. J'ai 16 ans. Papa me dit, je ne sais où nous serons pour tes 17 ans, mais je t'assure, ma petite cocotte, que pour tes 18 ans, tu auras une belle fête. De plus en plus de départs, mais les Allemands s'aperçoivent que dans les convois, on leur met surtout des vieillards. Par représailles, ils commandent un convoi de 1 500 personnes jeunes. Des listes sont affichées toutes les 2 heures. Pas de Holsten, mais tant d'amis nous quittent. Maman et moi, nous nous serrons l'une contre l'autre dans cette grande pièce vide. Un soir, j'ai mal à la gorge, j'ai la diphtérie. Dès le lendemain, je dois partir à l'hôpital. Sans dire au revoir ni à mon père ni à ma mère. Je ne les reverrai plus jamais. Je suis placée au bout d'un mois dans un centre d'enfants dont les parents ont été déportés. Ce n'est pas la liberté, car nous sommes sous contrôle allemand. D'abord Paris, ensuite Louveciennes à 25 km. Je reprends mes études. Les petits vont à l'école, mais on manque de personnel. Je décide de devenir monitrice. Je suis dans une chambre avec 9 petits de 4 à 7 ans. Je m'en occupe jour et nuit. Je vois un jour ma grand-mère arriver. Elle ne peut parler. Elle me tend une lettre, leur dernière lettre. Mes parents venaient de quitter Drancy le 20 novembre 43, direction inconnue. Le 22 juillet 44, il est 6 h du matin. J'entends sonner au portail. De ma fenêtre, je vois un officier allemand et 2 civils. La maison est cernée. Les enfants dorment encore. Il faut vite les préparer, entasser le plus de choses possible dans des couvertures. Nous devons être partis avant que Loufienne ne s'éveille. Un autobus nous conduit au camp de Drancy. En arrivant, nous retrouvons tous les centres d'enfants de la région parisienne. Ils sont là, comme nous, 180 futurs terroristes, de jeunes enfants hébétés que les nazis ont décidé d'exterminer sur l'ordre d'Aloïse Brunner. Les Alliés ont débarqué. Arriveront-ils à temps pour éviter le grand départ? Non. Le 31 juillet 1944, gratifiés des fameuses fiches mauves, nous quittons le camp. On nous dirige vers une petite gare où des wagons à bestiaux nous attendent. On y entasse du ravitaillement, des seaux, des matelas, 48 enfants et 12 grandes personnes. Les wagons sont verrouillés, le convoi s'ébranle, nous étions 1 300 personnes en route vers l'inconnu. Le soir, quand il fallut coucher les enfants dans le noir, les cris commencèrent. Impossible de dormir. Il fait chaud, ils ont soif, l'air commence à manquer. Le soir même, nous traversions le Rhin. La troisième nuit, il commence à y avoir un peu de calme. Les enfants dorment. Le train s'arrête. Les Allemands hurlent Schnell, Schnell, raus! Des hommes, la tête rasée et les yeux hagards, tirent brutalement tout le monde sur le quai. Je m'adresse à l'un d'eux. Remonte dans le train, je ne peux te parler ici. C'était un Français. Il me dit tout de suite ce qu'était le camp. La nourriture juste de ne quoi pas mourir de faim. Pas de place pour s'étendre la nuit. Tout le temps des appels. Et surtout, me dit-il en descendant, ne prends pas de gosse dans tes bras. Mais pourquoi? Tu comprendras d'ici quelques jours. Et me montrant les petits, ça va faire du savon. Il venait de me dire qu'il était au camp depuis 2 ans. Je le pris pour un fou. Je lui demande s'il connaît des Holsten. Plusieurs millions ont débarqué dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Je te conseille de ne plus y penser. Je vois une petite fille toute seule sur le quai. Je n'ai pas le courage de la laisser. Je la prends par la main, mais l'homme s'approche et me dit d'une voix autoritaire, tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Je laisse la petite au milieu d'un groupe d'enfants et avance seule. Il fait noir. Un barrage d'Allemands au milieu de la route. Des projecteurs dirigés vers nous. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Des hurlements de tous côtés. Je me trouve avec 170 jeunes invalides. De l'autre, 1 130 personnes montent dans les camions. Ceux qui venaient d'être séparés, soit d'un mari, soit d'un enfant, soit d'un parent, pleure. En avant, nous devons marcher entre les fils de fer barbelés, entourés de soldats avec leurs chiens. On arrive devant une grande baraque, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Nous entrons dans une grande pièce. Des soldats, hommes et femmes, nous regardent. Il faut se dévêtir devant eux. Au mur de grands panneaux, rangez bien vos affaires pour les retrouver à la sortie. Des femmes, des déportés, nous arrachent nos bijoux. Rien à dire, rien à faire, nous sommes au camp. On nous rase les cheveux, quelle horreur. En regardant les autres, j'imagine facilement quelle tête je peux avoir. On passe à la douche. On nous lance des guenilles au hasard. Cinq par cinq, nous pataugeons dans la boue. Halte devant une baraque de grands lits à étages de chaque côté d'une longue cheminée en briques rouges. Harassés de fatigue, abrutis d'avoir été si vite dépouillés de tout, je m'endors d'un sommeil de plomb. Aufstehen, aber schnell! Ce sont des hurlements de toutes parts. Il est 2 heures du matin, nous étions couchés 2 heures plus tôt. Dehors, en rang par cinq, nous restons plantés debout toute la journée sans bouger. Notre première journée d'enfer commençait. Notre chef de bloc, une juive tchèque, nous jalousait. Elle souffrait depuis 2 ans et nous venions juste d'arriver. On apporte la soupe, une casserole pour 12. Je décide de me nourrir. Je n'avais plus qu'une idée en tête, en sortir un jour. Ce camp ressemblait à un cimetière de morts en sursis. On nous conduit au tatouage. Cela se fait par piqûre. Il ne faut surtout pas bouger, sinon l'aiguille est enfoncée avec plus de brutalité. On doit travailler. À chaque appel, nous restons des heures à genoux. Les coups pleuvent. Puis, au lieu d'être cinq dans les lits, il fallut se mettre par 12 et même quelquefois plus. Un soir, une autre chef vint nous chercher. Elle paraissait plus humaine. Elle nous dit que 18 membres de sa famille étaient passés au crématoire. Mais ses aides étaient des monstres. La nourriture était la même, mais le travail augmentait. Il fallait porter des briques, des tables, des machines à coudre ou des blocs de grès qu'il fallait ensuite casser à la pioche. 3 heures du matin, appel jusqu'à 8 heures. Parfois, nous pouvions nous laver, mais en tenant nos affaires contre nous, sinon plus rien à la sortie. Tout était volé et revendu ensuite contre de la nourriture. Les Allemands le matin n'assistaient pas à l'appel, mais le soir ils nous comptaient eux-mêmes. Si l'appel n'était pas juste, nous devions rester des heures à genoux. Si les Polonaises le voulaient, nous avions le matin un soi-disant café. Un morceau de pain avec un petit bout de fromage ou de saucisson, puis dans la journée un peu de soupe. Toujours les yeux baissés. Ne jamais regarder un Allemand dans les yeux. Toujours s'écarter à leur passage. Toujours des coups, des punitions. La terreur règne. Sans raison, on nous fait mettre à genoux les bras en l'air, quelquefois une brique dans chaque main. Ces femmes, les capots, des déportés comme nous, prenaient un malin plaisir à nous torturer pour se faire bien voir des Allemands ou pour une assiette de soupe en plus. Une pauvre fille bouscule une Allemande, celle-ci se retourne, l'attrape par les cheveux et après lui avoir donné une bonne correction, appelle un Allemand, lui raconte l'histoire. Le Boche la fait courir les bras en l'air et chaque fois qu'il tape dans ses mains, la pauvre fille doit se jeter à terre et lui, avec son vélo, lui passe sur le corps. Un autre jour, une avait volé un peu de soupe. Elle fut rouée de coups. Elle ne baissait pas les yeux. Les coups redoublèrent. Elle ne baissait toujours pas les yeux. Une femme allemande, en se frottant les mains, l'acheva devant nous à coups de cravache. Un matin, je suis fiévreuse. Il faut tout de même aller à l'appel. J'arrive à me cacher pour le travail. La doctoresse me dit que j'ai la scarlatine. J'étais contente. Plus d'appel, plus de travail, enfin un peu de repos. Mais un matin, c'est la panique. Le docteur Mengele doit venir. Pourquoi une telle frayeur? Une internée me dit que cet homme a sur la conscience la mort de 2 millions de Juifs. Chacune à notre tour, nous devons nous présenter nus. Il fait un signe devant notre nom. Il venait de faire une sélection. Les plus malades, ou celles qui avaient mis au monde un bébé, savaient quel sort elles allaient subir. Elles sanglotaient tenant leurs enfants dans les bras. D'autres devenaient folles, s'arrachant les cheveux. Les infirmières, voyant la panique, vinrent clouer la porte. On entendait le bruit sourd du marteau dans le noir le plus complet. Le lendemain, tout le monde avait une tête d'enterrement. Jusqu'au soir, c'est l'angoisse. Puis une secrétaire rentre avec une liste. Mon nom n'y figure pas. Les femmes sont poussées dans un camion et l'horreur me gagne. Tout s'éclaire. C'était donc vrai ce que l'on m'avait dit à mon arrivée. Toutes les personnes de mon convoi devaient être exterminées. Était-ce possible que tous mes petits, et comme le disait cet homme, étaient transformés en savon? Je sors de l'hôpital. Mon convoi est parti en transport. Je suis seule française au milieu de femmes de tout pays. Je ne comprends pas leur langue. Il pleut dehors. Le camp n'est qu'une mare, on s'enfonce dans l'eau jusqu'aux chevilles. C'est l'hiver en Pologne. Le vent et le froid sont terribles. Certains jours, il fait moins 30. Je n'ai qu'une petite robe sur le dos et je dois rester ainsi dehors aux appels du matin au soir. Des bruits de départ circulent. Va-t-on enfin quitter cet enfer? Nous changeons souvent de baraque. Un soir, nous arrivons après une longue marche à l'autre bout du camp. Tout le monde s'arrête. Devant nos yeux, le crématoire. Des flammes sortent des cheminées. L'odeur est irrespirable. Nous sommes toutes terrorisées. Peut-on dormir ou manger devant un tel spectacle? Les appels et les coups redoublent. Le camp se vide, mais nous ne partons toujours pas. Un matin, après des heures d'appel, on nous conduit vers les douches, ou peut-être vers la chambre à gaz. L'eau coule enfin. Merci, mon Dieu. Depuis un mois, j'ai les jambes gelées, et la nuit, la douleur est terrible. J'ai une plaie au pied. Fin décembre, nous sommes enfin sur les listes de départ. Il faut se présenter devant une doctoresse et un officier. Je sais que je vais être refoulée. Miracle, ils parlent tous deux et ne voient pas mes jambes. J'allais enfin quitter cet enfer. Nous espérons toutes aller travailler en fabrique, ne plus recevoir de coups, peut-être plus d'appels. Je repense à ces semaines où j'ai dû couper des lanières de chiffon pour en faire des fouets. Nous devions faire un métrage par semaine. Le samedi, un capot venait vérifier. Toutes celles qui étaient trop en retard avaient droit à la séance de gymnastique dans la neige. On court, on se couche. On court, on se couche. Bien peu ont résisté à cette torture. Le 30 décembre, enfin, nous partons. Je suis habillée d'un superbe manteau gris, une robe et un foulard sur la tête. Nous grimpons dans des wagons à bestiaux. Le moral est bon. 3 soldats et 50 femmes. Pas de bagages. On remet des sacs de couchage en papier aux Allemands. À nous, un morceau de pain et de saucisson. Les Allemands sont des vieux qui ont fait la guerre de 14. Ils sont heureux d'être là plutôt que sur le front russe. En cachette, l'un des trois me donne un morceau de pain d'épices pour mon réveillon du jour de l'an 1945. Nous arrivons au milieu d'une forêt. Où étions-nous? Nous marchons des heures dans la neige. Je tombe souvent. Les Allemands nous font marcher à coups de crosse. Tout autour de nous, il n'y a que camps et casernes. Bergen-Belsen, nous retrouvons des têtes connues de Birkenau. On pénètre dans un bloc où des femmes bavardent. Quel calme! Mais un officier allemand entre et désigne du doigt plusieurs femmes. Ton manteau, je suis du nombre. Je suis totalement désespérée. Le commandant d'Auschwitz arrive au bout d'une semaine à peine. De suite, le régime change. À nouveau, les appels matin et soir. Interdiction de sortir avec sa couverture sur le dos. Comment vais-je résister avec une robe légère et pieds nus? Nous sommes en janvier. Il faut installer des baraques. On vide à Auschwitz. Les rues s'approchent. Le travail est épuisant dans la neige. Les coups redoublent. Les Polonaises sont là. À nouveau, des appels interminables, toujours sans manteau. J'ai la chance d'être envoyée dans un atelier de couture. La nourriture est plus abondante et personne ne hurle. Mais cela ne dure que 3 semaines. J'en profite pour m'acheter une paire de bottes avec mes rations de 3 jours de pain et une semaine de margarine. Je sens mes forces diminuer, mais j'ai enfin les pieds au chaud. Je venais de me faire un superbe cadeau pour mes 18 ans. Tristement, je pensais à la promesse de mon père. Pour tes 18 ans, tu auras une belle fête. Un matin, nous changeons de bloc. Il n'y a pas de lit. On dort sur le plancher sans pouvoir s'étendre, entassées les unes sur les autres. La nuit, celle qui avait besoin de sortir nous marchait sur la tête. Sans cesse des hurlements et des coups. C'est l'enfer. L'eau se fait rare. On ne peut plus se laver. Nous avons tout le typhus. Nous sommes couverts de poux. Ne va-t-on pas nous raser encore une fois? Nous avons toute la diarrhée. Sortir la nuit est un supplice. Certaines n'en ont plus la force et font sous elle. L'atmosphère est irrespirable. Chaque jour, je vois mes forces diminuer. J'ai tellement soif, je n'y tiens plus et vais prendre de l'eau boueuse dans une mare où flottent des cadavres. Un jour, je trouve un vieil os et toute la journée, je le suce. Je crois ainsi avoir moins faim. La soif nous fait souffrir atrocement. Plus une goutte de salive. J'ai la langue enflée ainsi que la gorge. Combien de temps vais-je encore tenir? Chaque nuit, des femmes meurent autour de moi. Le matin, il faut les porter devant la porte. Les hommes passent, les prendre et les entassent les unes sur les autres. Ils se forment des monticules de cadavres nus. Les Allemands les voulaient les brûler à la chaux vive, mais ils n'en ont pas eu le temps. Notre dortoir est presque vide. Chaque soir, en m'allongeant, je pensais: Mon Dieu, faites que je vive encore demain. C'est une question d'heure. Mon cœur flanche. Je ne tiens plus sur mes jambes. Nos libérateurs vont-ils arriver à temps? On entend des canons, les bombardements augmentent. Je ne bouge plus afin de ne pas user mes dernières forces. Dimanche 15 avril, on se bat tout près du camp. Le bruit est assourdissant. Ils arrivent, ils sont là. À midi, les haut-parleurs annoncent dans toutes les langues: Vous êtes libres. Nous pleurions de joie, c'était merveilleux. Que de sourires sur tous ces squelettes ambulants. L'armée anglaise venait de libérer Bergen-Belsen. Les soldats ignoraient la présence de ce camp vers Hambourg. Ils n'avaient pas prévu la nourriture. L'intendant suivait ainsi que les médecins, mais atterrés de trouver tous ces gens à l'article de la mort, ils nous distribuent leurs rations, des boîtes de conserve, du lait en boîte. Ce fut la catastrophe. Je crus bien à nouveau mourir et bien d'autres sont morts d'avoir voulu remanger après tant de privations. Les médecins arrivent 2 jours plus tard et essayent de nous réalimenter progressivement. J'étais en vie, on devait savoir en France que j'étais libérée. Je voulais revoir mon pays, revoir les miens, je m'accrochais à cette idée. 10 jours plus tard, on appelle au micro toutes les Françaises valides. On doit se présenter au bureau. Comment vais-je pouvoir marcher? Il le faut, je le sens. Si je ne pars pas aujourd'hui, je ne quitterai jamais plus cet enfer. Je me traîne, aidée par ma chef de bloc, redevenue subitement humaine. Toutes mes camarades me traitent de folle, mais avec une volonté farouche, j'arrive à me redresser et à passer de l'autre côté de la porte. J'ai gagné. On ne marchera pas jusqu'à l'arrivée devant des casernes de l'armée allemande. Montez au deuxième. Ça paraît tout simple, mais pour moi c'est loin d'être facile. Il n'y a qu'une possibilité, je monte à quatre pattes. Après une bonne douche, nous pouvons enfin nous allonger sur de bons lits. Mais quelle déception en sortant de la douche, nous retrouvons les mêmes vêtements, soi-disant désinfectés au DDT. Ne connaissant pas ce produit, nous sommes toutes inquiètes. Pendant quelques jours, on se gratte encore, mais c'est vrai, l'irritation passe. À cause du typhus, nous devons rester en quarantaine. Les forces reviennent. Notre principale occupation était de trouver du ravitaillement. Pour cela, nous allons dans les fermes. Les Allemandes pleurent en nous disant qu'elles n'ont plus rien. Un homme arrive, force la porte de leur cuisine et nous fait servir la superbe omelette préparée pour le déjeuner. Un camp de prisonniers français était proche de nous. Avant la libération, ils ignoraient notre présence. Dès que ce fut possible, ils vinrent nous réconforter moralement et nous apporter tout le ravitaillement possible. N'étant pas en quarantaine, ils furent vite rapatriés. Ils prennent du courrier pour nos familles. Beaucoup ignoraient s'il y aurait encore des survivants. Des familles entières avaient été exterminées. Que sera Paris à mon retour? Nous venions de trouver des pommes de terre en revenant avec notre lourd chargement. Nous croisons des officiers anglais de rapatriement. Laissez tout cela, vous partez ce soir. N'y croyant plus tellement, après avoir entendu cela tant de fois, nous hésitons à laisser ce butin si précieux, et pourtant c'était vrai. De grands camions militaires sont rangés devant la caserne. C'est le départ. J'ai du mal à y croire. Nous montons dans les camions. Nous sommes en juin 1945. Je viens de quitter l'enfer. Quelques kilomètres plus loin, un grand centre de rapatriement. Il y a une foule de déportés, hommes et femmes, de prisonniers, de travailleurs requis et même de travailleurs volontaires. Visite médicale. Les hommes doivent lever les bras et les femmes ouvrir leur corsage. On cherche les SS qui se sont infiltrés parmi nous. Il y en avait 11. Les femmes s'étaient rasées la tête pour ne ressembler. Ils étaient tatoués. C'est le retour par petites étapes. Certains soirs, nous dormons dans des porcheries ou sous la tente. Rien n'a d'importance si ce n'est de rentrer au plus vite. Un soir, un officier de rapatriement français me laisse sa chambre. Le lendemain, en venant me chercher, il me dit: « Je suis de Rouen. » Il y était 3 jours plus tôt et avait entendu parler d'un Holsten qui était de retour. Je ne tenais plus en place, il fallait que je rentre au plus vite. Était-ce possible que mon père soit à la maison? Je ne pouvais plus dormir ni rien avaler, c'était la course contre la montre. À chaque départ, je me faufile au milieu des appelés. On me laisse partir. J'ai l'air d'une enfant de 12 ans. Peut-on contrarier un petit bout de bonne femme à l'air si décidé? J'ai battu le record de vitesse, Bergen-Belsen-Paris, en 5 jours. On traverse la frontière. Tout le monde chante la Marseillaise en pleurant de joie. Nous venions de traverser la Belgique. Dernière étape. Valenciennes-Paris, Gare du Nord, par le train. Il y a foule sur le quai. Les uns sachant qu'un prisonnier doit arriver d'Allemagne. Les autres venant à chaque convoi, espérant retrouver soit un mari, soit un enfant, soit un parent. Des centaines de gens m'entourent. Vous venez d'Auschwitz, de Bergen-Belsen? Vous connaissez mon fils? Mon mari, mon frère, mes parents, y a-t-il beaucoup de survivants? Heureusement, un officier vint au vent de moi et me dit les larmes aux yeux. Venez, mon petit, vous allez dormir à l'hôtel Lutetia. Ce n'est pas possible, je suis à quelques centaines de mètres de chez ma grand-mère, ni rien ni personne ne m'empêchera de rentrer chez moi. Je tiens à peine sur mes jambes. Il me confie à un jeune scout venant chaque nuit accueillir des rapatriés. Une voiture de pompiers s'arrête et, me voyant si faible, me dépose devant la porte. 3 heures du matin. La concierge met longtemps à ouvrir. Je lui demande en tremblant si ma grand-mère est toujours là. Elle me répond oui, ainsi que mon frère qui avait échappé aux Allemands. Et mon père? Non, il n'y a personne d'autre que vous qui soit revenu. Le coup est terrible, toute la joie du retour s'efface. Je sais, moi, que tout espoir de les revoir un jour est perdu. Je sonne, ma petite grand-mère ouvre doucement la porte, et c'est elle qui me fait peur. Elle est plus pâle que moi. Je suis obligée de la soutenir. L'émotion est trop forte. Ma petite fille, répète-t-elle sans arrêt, tu es revenue avant eux. J'avais si peur, ils t'avaient confiée à moi. Je vis immédiatement qu'elle attendait mes parents et ne dit rien. Je retrouve mon frère, on se regarde, mais il nous est impossible de prononcer une parole, et pourtant tant de questions sur nos lèvres. Le lendemain, je dois me présenter à l'hôtel Lutetia. Je ne suis plus le numéro A16727 dénommé Sarah. Je suis Denise Holsten, née à Rouen le 6 février 1927. Nationalité française. J'ai retrouvé mon identité, mais pas mes parents. Je dois reprendre ma vie de jeune fille civilisée. Autour de moi, tout m'étonne. J'écoute et je regarde, mais je reste muette. Qui pourrait imaginer le degré de barbarie des nazis? Peut-on croire qu'à l'arrivée dans les camps, des milliers de personnes montaient dans des camions pour être emmenées à la douche? Au mur de grands panneaux, rangez bien vos affaires pour les retrouver en sortant. Ils ont verrouillé les portes, et au lieu de l'eau, ce sont les gaz qui asphyxient ces malheureux. Quand les hurlements s'arrêtent, on ouvre les portes. Des déportés coupent les cheveux, arrache les dents en or à coups de marteau. D'autres découpent les tatouages pour la femme du commandant qui aime en faire des abat-jour. On met les lunettes et les bijoux dans de grands paniers. Ensuite, les corps sont brûlés. On récupère la graisse humaine pour en faire du savon. Ce récit a été écrit à Cayeux-sur-Mer en juillet 1945, quelques semaines après mon retour. Je suis revenue. Je suis vivante. Je n'ai pas pu parler pendant un demi-siècle. Mais maintenant, j'ai envie de crier au monde. N'oubliez pas, ne les oubliez pas. Cela fait partie de notre histoire contemporaine. Dans quelques années, il n'y aura plus de survivants. Heureusement, des écrits et des photos resteront à jamais.